Alma Alexio. Benvenuti ad Alma Alexio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis, tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. In questa settima puntata ascoltiamo Christian Boltanski, uno dei maggiori artisti francesi contemporanei che ha fatto della memoria storica una nuova narrazione sociale. Boltanski ci parla di arte e memoria nella lezione dottorale tenuta l'11 maggio 2018 in occasione della cerimonia per il conferimento della laurea d'honorem in scienze storiche e orientalistiche. Buon ascolto!
Bon, je vais parler en français, parce que malheureusement je ne parle pas italien. Et d'abord, je voulais vous remercier tous d'être venus ce soir, cet après-midi, et remercier l'Université de Bologne et tous ceux qui m'ont fait l'honneur d'être ici. Et pour moi, c'est une grande joie. Je pense que je suis le premier lauréat de cette merveilleuse distinction qui n'a jamais fait d'études. Je n'ai jamais dans ma vie passé aucun examen. J'ai quitté l'école à 13 ans et j'étais un très très mauvais élève. Et j'ai été professeur après. Donc la vie s'est vengée du fait que je n'ai jamais été à l'école. Vous savez, il y a quelque chose qui est peut-être un peu différent entre le monde de l'art et le monde de la science, et en même temps pas tout à fait différent. C'est que quand on est artiste, il faut croire pour y voir, et quand on est scientifique, il faut voir pour y croire. C'est-à-dire que nous, c'est l'instinct qui nous permet d'agir, et nous n'avons pas besoin de référence. Si je vous dis tout à l'heure que le ciel est rouge, le ciel sera rouge pour moi, et beaucoup d'artistes dans les années 20 ont fait des ciels rouges, tous les artistes expressionnistes. Et donc, on n'a pas besoin de s'appuyer sur un savoir, c'est l'instinct qui compte. Moi, je pense qu'au début de chaque vie d'artiste, il y a un trauma au sens psychanalytique du terme. Et dans mon cas, le trauma était en fait un trauma historique, c'est-à-dire que je suis né juste à la fin de la guerre et tous les amis de mes parents étaient des survivants de la Shoah et j'ai écouté extrêmement jeune, vers 2-3 ans, des récits terrifiants qui, je pense, ont marqué totalement mon existence et ma création. Alors, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, vers 12 ans, même avant, j'étais totalement idiot. Je le suis encore un petit peu aujourd'hui, mais un petit peu moins. Et donc mes parents ont eu la sagesse de me dire que, comme j'étais incapable d'aller à l'école, je m'enfuyais à chaque fois qu'on me mettait dans une école. Ils m'ont dit, si tu veux plus aller à l'école, reste à la maison. Et là, je suis resté à regarder par la fenêtre et à compter les voitures. Et un jour, j'ai fait un petit dessin. Et mon frère, plus âgé que moi, m'a dit que ce dessin lui plaisait. Et c'était la première fois qu'on me disait que j'avais fait une chose bien. Et donc je me suis dit, bon, ça doit être mon destin, ça doit être mon métier. Et donc j'ai commencé à faire de nombreux très grands tableaux, très narratifs, avec beaucoup de personnages, et qui sont heureusement détruits, parce qu'ils n'étaient pas très bons. Et puis, j'ai commencé à devenir adulte. Vous savez, je suis devenu adulte assez tard, en fait, vers l'âge de 23 ans. Et je pense que dans une vie d'artiste, il y a très peu de moments de création. Et ces moments de création sont liés à des très grands changements corporels. C'est-à-dire que moi, en étant optimiste, j'ai eu trois moments de création de ma vie. Un, quand je suis devenu adulte. Un autre quand j'ai perdu mes parents, et un troisième quand je suis devenu très vieux. Et donc, ces moments de création qui sont exceptionnels sont des moments de rupture dans une vie. Et en tout cas, j'ai commencé donc vers 23 ans à me poser des questions sur la fin de mon enfance, sur ce temps qui avait disparu et dont j'avais encore le souvenir. J'ai toujours beaucoup aimé un homme de théâtre polonais qui s'appelle Tadeusz Kantor, et dans La classe morte, il montre que chaque humain porte un enfant mort, qui est lui-même mort. C'est le petit Christian est encore en moi, mais il s'efface de plus en plus. Et donc j'ai eu ce désir de retenir cette destinée qui, je le savais, était forcément liée à la disparition. Et toute mon œuvre par la suite, qui d'ailleurs a été un échec total, parce que on ne peut lutter contre la disparition ou contre la mort, et donc j'ai toujours tout raté, a été cette sorte de combat impossible pour sauvegarder quelque chose. Et chacune de mes œuvres, qu'il s'agisse effectivement du sauvegarde de chaque humain ou d'autres questions, a toujours été comme des sortes de petites paraboles, mais au lieu de les dire avec des mots, comme je le dis ici, c'est avec des sensations, des images, des senteurs, des bruits, des paroles. Mais l'œuvre chez moi, mon œuvre chez moi a été une sorte de long questionnement, de questions qui m'obsédaient et dont naturellement je n'ai pas réussi et je ne peux pas répondre à ces questions. Vous savez, en art, il y a très peu, et en art, en philosophie, en théologie, il y a très peu de questions qui sont toujours les mêmes depuis le début des temps. Il y a la recherche de Dieu, pourquoi doit-on mourir, le sexe, la beauté de la nature. Enfin, il y a une dizaine de questions qui sont toujours posées. Et je me pose également ces questions, et je pense qu'il n'y a pas de réponse à ces questions, mais qu'il est important de se les poser. Et très tôt, dans le premier petit texte que j'ai écrit, je disais qu'il fallait sauver ce que j'ai appelé la petite mémoire par rapport à la grande mémoire. La grande mémoire est dans les livres, et tous ces fameux historiens qui ont été dans cette université ont travaillé sur la grande mémoire. Mais la petite mémoire a quelque chose de totalement individuel. C'est savoir où on peut manger les meilleurs spaghettis à Bologne. C'est connaître une histoire drôle. Et tous ces petits détails qui nous forment, qui nous fabriquent, disparaissent après nous. Et donc, j'ai pris ce combat d'essayer de sauver le plus possible ces petites mémoires multiples. Mais naturellement, il y en a tellement. Comment faire? Mais, vous savez, on dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Et quand n'importe lequel d'entre nous meurt, c'est tout un savoir qui disparaît. Mais comment faire pour préserver tout le monde et tous ces gens? Et donc là encore, c'était quelque chose qui était un combat perdu. Mais le travail d'un artiste, enfin d'un artiste, il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup d'artistes différents, mais quelqu'un comme moi a été d'essayer de comprendre pour moi-même et de poser des questions aux autres, mais ces questions n'ont jamais une attente d'avoir une réponse, et je pense que les réponses sont extrêmement dangereuses, mais chaque question amène une autre question et c'est indéfini. Avant le Big Bang, il y avait autre chose, et avant autre chose, il y avait autre chose. Et derrière chaque question, il y a une autre question. Et donc, l'activité que j'ai, ou que j'ai eue, a été de poser des questions d'abord à moi, parce que ces questions me semblaient importantes pour moi-même. Par exemple, je crois beaucoup à l'unicité de chaque être, que chaque être est extrêmement important parce que chaque personne est unique. Et en même temps, chaque personne est tellement fragile qu'on se souvient à la rigueur de son grand-père, mais jamais de son arrière-grand-père. Et donc, comment tous ces gens merveilleux, tous ces gens qui ont agi, qui ont fait des choses, comme vous tous, j'avais une grand-mère merveilleuse, Et je suis le dernier à me souvenir un peu d'elle. Et donc quand je vais disparaître, il n'y aura plus aucune trace d'elle. Mais c'est comme ça pour nous tous. Et donc cette ambiguïté de l'importance et de la fragilité est une chose qui m'a beaucoup obsédé. Puis je me suis intéressé à le hasard et à la destinée, ce qui est aussi un thème très classique, est un vieux thème, c'est-à-dire la destinée voudrait dire qu'il y a une sorte d'ordre dans le monde, que les choses sont plus ou moins écrites et qu'il y a une raison pour chaque chose qui arrive. Par exemple, que si l'avion tombe demain en rentrant à Paris, ça voudra dire que c'était écrit, que je devais venir à Bologne recevoir cette célébration et que c'était prévu que je prenne l'avion demain à 9h30 et que l'avion tombe. Si, comme moi, on n'est pas croyant, c'est seulement le hasard qui fera que l'avion tombe ou que l'avion ne tombe pas. Et ce sera pas, il n'y a pas un destin. Et donc, cette question du destin a toujours été une chose très importante pour moi depuis très longtemps. J'avais fait un travail à Berlin et il y avait une maison qui avait un escalier A, un escalier B et un escalier C. Et l'escalier B avait reçu une bombe en 1945 et tout le monde avait été tué. Et donc, c'est un sujet tellement ancien. Pourquoi ceux-là sont morts et pourquoi ceux-là à côté ne sont pas morts? Et naturellement, il n'y a pas de réponse. Donc tout ce que je fais a été que des questionnements. J'ai toujours qu'il y a des portes qui sont fermées et que chaque être humain, qu'il soit en Patagonie ou ici à Bologne, cherche une clé pour ouvrir la serrure de ces portes fermées et que chacun espère trouver la bonne clé. Et pour moi, naturellement, il n'y a pas de bonne clé, mais être humain, c'est chercher cette clé. Chercher la clé, même si on sait qu'elle n'existe pas ou qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Et donc, ma vie n'est qu'une sorte de questionnement et de questionnements qui sont sans espoir de réponse. Ma dernière œuvre, par exemple, que j'ai fait en Patagonie, il y a quelques mois, pour les Indiens d'Amérique latine, les baleines sont les animaux qui connaissent le début des temps, qui connaissent la vérité, disons. Et donc j'ai construit d'énormes trompes et j'ai travaillé avec des acousticiens pour refaire le langage des baleines et je pose des questions aux baleines qui naturellement ne me répondent pas, mais c'est les derniers à qui je veux poser la question, voilà, puisque personne ne peut me répondre. Mais là encore, je sais qu'elles ne vont pas me répondre. Alors, je crois beaucoup à la transmission, et la transmission est une chose qui me passionne. Et il y a deux sortes de transmission. Il y a une transmission qui est liée à l'Occident chrétien et qui est l'idée du petit bout d'os de sein. Et d'ailleurs, toutes les villes d'Europe ont commencé comme ça. On trouve un petit bout d'os de sein, on construit une église, il y a beaucoup de gens qui viennent prier, puis il y a une foire, et les villes d'Europe commencent comme ça. Et maintenant, d'ailleurs, ça a été remplacé par les musées. Comme on voit à Bilbao, ils ont construit un grand musée, ils ont mis quelques petits bouts d'os de sein, enfin, quelques œuvres d'artistes dans le musée, et la ville est devenue riche. Donc il y a le même fonctionnement de la sainte relique. On pourrait, si on voulait, grâce aux technologies d'aujourd'hui, faire des Van Gogh en 300 000 exemplaires et en mettre partout, et ils seraient exactement semblables. Mais naturellement, ce n'est pas possible, parce qu'il faut aller à Amsterdam, attendre sous la pluie, voir 3 secondes le Van Gogh, et on s'approche de la sainteté. Mais donc ça, c'est la tradition de l'Occident. Et puis, il y a une autre tradition, qui est une tradition qui est plutôt orientale et même, je pense, africaine, qui est la transmission se fait par la connaissance. Et pour moi, c'est un choix que j'ai pris dans mon œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire la plupart des objets que je fais sont détruits après les avoir montrés, mais on peut les refaire. Vous savez, je suis très souvent au Japon, qui est un pays que j'aime beaucoup, Et il y a un fameux sanctuaire shintoïste au Japon qui a 600 ans, mais qui est refait à l'identique tous les 20 ans. Donc il est à la fois très vieux et très neuf. Et ce qui compte, c'est donc pas l'authenticité du morceau de bois qui aurait 600 ans, mais le fait qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui savent le refaire. Et je pense que, de même en Afrique, il est plus important pour un Africain de savoir à quoi sert un masque que de garder le masque. Et moi, je crois beaucoup à la transmission par la connaissance, c'est-à-dire que mes œuvres se détruisent ou sont détruites volontairement, mais un peu comme des partitions musicales, elles peuvent être rejouées. Tout à l'heure, quelqu'un d'entre vous parlait de cette œuvre qui s'appelait Personne au Grand Palais, et elle a été interprétée à Milan, à New York et au Japon après Paris. Et naturellement, il n'y a jamais eu aucun transport. Elle a été réinterprétée. Et donc, tant que je suis vivant, je joue mes propres œuvres, mais par la suite, il faudra que quelqu'un les joue. Et la force de la musique, c'est que le pianiste, par exemple, réincarne la musique. Et donc moi, je souhaite plus tard qu'on dira c'est une œuvre de Boltinski interprétée par Monsieur Intel ou par Madame X. Et aujourd'hui, j'ai même un peu dépassé cela. C'est-à-dire que je pense que les mythes sont plus forts que les œuvres. Et j'essaye de construire des mythes qui demeurent. Par exemple, on parlait tout à l'heure de cette île de Teshima au Japon où j'ai à peu près 130 000 battements de cœur de pays différents. Et maintenant, pour les Japonais qui viennent là, c'est plus un lieu de pèlerinage. Je pense qu'ils ne savent même pas que c'est un artiste qui a eu l'idée. Ils ne connaissent pas mon nom, mais ils savent qu'il y a le cœur de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère qui est là, et ils viennent l'écouter. Et donc ça devient comme une sorte de rituel. De même que pour cette œuvre du questionnement des baleines, j'espère que dans quelques années, on m'aura totalement oublié, mais qu'il restera l'histoire qu'il y a eu un fou qui a essayé de poser des questions aux baleines. Et donc je crois que les mythes ont une... Mais il y a des anthropologues ici qui sont beaucoup plus aptes à parler de ça, mais que les mythes ont une force qui est peut-être plus grande que les objets eux-mêmes. Et donc, je ne sais pas, par exemple, il y a une chose peu connue de moi, il y a le temps est dit sous la cathédrale de Salzbourg. Donc si vous allez à Salzbourg, si vous descendez dans la crypte, il y a une machine qui dit... Il est 5 heures, 2 minutes, 3 secondes, 5 heures, 2 minutes, 4 secondes, etc. etc. Et ça a été assez compliqué de convaincre l'archevêque de Salzbourg d'accepter ce projet. Mais en tout cas, pour moi, il était important que le temps soit dit sous une cathédrale. Puisque je pense, même encore n'étant pas croyant, mais que ce qu'on peut appeler Dieu est le maître du temps. Et donc, là encore, il ne s'agit pas d'aller dans cette crypte. Ce n'est pas très intéressant d'écouter l'heure qu'il est. Il ne s'agit pas d'aller au Japon. On entend, le paysage est merveilleux et l'endroit est extrêmement beau, mais on entend des cœurs et on ressent plus l'absence que la présence de la personne qui a disparu et dont le cœur est là. Mais il s'agit de créer des histoires. Par exemple, depuis maintenant plus de 10 ans, j'ai vendu ma vie à un Tasmanien. Et il y a un homme en Tasmanie qui, dans mon atelier où je vis, j'ai de très nombreuses caméras de surveillance, et que je sois dans l'atelier, que je ne sois pas dans l'atelier, tout est envoyé en Tasmanie. Et donc il y a une sorte de bunker caverne en Tasmanie où il y a des milliers et des milliers d'heures de ma vie, qui n'ont aucun espèce d'intérêt d'ailleurs. Mais... La parabole, c'est que d'abord, si quelqu'un veut regarder la vie d'un autre, il n'a plus le temps de vivre lui-même. Tout son temps consiste à regarder l'autre. Et puis, un des malheurs, je pense, de ce temps, c'est que nous sommes fâchés avec le fait de mourir et de vieillir, et qu'on tâche de cacher cela. Et là, effectivement, si quelqu'un a la curiosité un jour de regarder ces bandes vidéo, on me verra changer, on me verra que j'ai du mal à monter l'escalier qui est dans mon atelier. Et donc, il y a une sorte comme ça de dégradation, ou de, je ne sais pas si c'est une dégradation, d'ailleurs peut-être que ce n'est pas du tout, de changement qui est marqué, qui est le temps est marqué. Donc, si vous voulez, chaque œuvre que je fais est de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus d'exposition dans les galeries, je ne fais plus d'œuvres qu'on peut accrocher au mur. Ce sont, oui, des sortes de petites paraboles, mais en étant prétentieux à la manière des histoires hassidiques ou des maîtres zen, ces paraboles ne donnent pas de réponse, mais posent des questions. Alors, qu'est-ce que je fais dans un monde scientifique comme le vôtre? Je disais au début que nous, pour faire une œuvre, il faut d'abord y croire avant d'y voir, et que vous, scientifiques, normalement, il faudrait d'abord y voir avant d'y croire. Mais en fait, que je pense que l'imagination, même pour vous, est toujours ce qu'il y a de plus important. Si on recherche une petite molécule quelque part, il faut d'abord penser qu'elle existe avant de la trouver. Donc, tout scientifique est d'abord lié à l'imagination, et après ça, il certifie, il trouve qu'il avait raison d'avoir imaginé. Donc, chacun de nous, essayons d'imaginer, et peut-être que dans cet nombre de questions loufoques, une vérité va peut-être sortir. C'est très compliqué pour moi d'être ici parce que, j'en suis très honoré, mais c'est très compliqué parce qu'un artiste est quelqu'un qui devrait ne pas s'intéresser aux honneurs temporels. J'ai essayé dans ma vie, j'ai été professeur, mais de jamais être dans des jurys, des choses comme ça. Et je pense que notre rôle est ailleurs. Quand j'étais professeur, j'étais un très mauvais professeur, mais ça peut peut-être vous amuser. D'abord, au Beaux-Arts de Paris, on a un atelier, il y a un certain nombre d'étudiants qui s'inscrivent pour vous. Alors au début de l'année, j'en avais une quarantaine, à la fin, il n'y en avait plus que 5 ou 6, qui étaient généralement des Asiatiques, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que je disais. Mais quoi qu'il en soit, je leur disais toujours qu'en art, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'attendre et d'espérer. Et c'est vrai qu'il n'y a rien à enseigner en art. Il faut attendre et espérer qu'un jour, on va peut-être comprendre quelque chose. Moi-même, comme je le disais, j'ai eu très peu de temps de création de ma vie. Et la meilleure chose que je peux faire, c'est attendre, coucher sur un lit, à regarder des choses les plus bêtes possibles à la télévision, pour me vider complètement l'esprit, et peut-être espérer qu'un jour, je peux comprendre quelque chose un tout petit peu mieux. Donc, la notion même de travail n'a pas de sens. On est à l'intérieur de l'œuvre, donc on pense à ça du matin au soir, mais ce n'est pas pour ça qu'on y travaille. On est dans l'espérance, mais on n'est pas forcément dans le travail. Et donc je pense que c'est assez différent, je ne sais pas, parce que je ne suis pas scientifique, mais de tout ce que vous faites, vous devez travailler. Nous, on doit attendre. Alors, comme il est tellement dur de ne rien faire, qui est mon seul devoir, ce trait de ne rien faire, mais c'est trop dur. Donc, je fais des expositions un peu partout, je prends des avions, je suis ici aujourd'hui, et c'est comme une sorte de distraction. Mais je sais que tout ça est totalement inutile, et que la seule chose possible est d'attendre. Mais je ne suis pas encore arrivé là, et je suis trop distrait par la vie. Écoutez, en tout cas, merci de m'avoir donné cette joie de retourner à Bologne, qui est une des villes que je préfère au monde, et d'avoir assisté à cette cérémonie qui m'est donnée et dont je suis heureux et fier, et qui est pour moi aussi étrange que de se retrouver au fin fond de la Patagonie dans un lieu totalement désert. C'est autre chose, mais c'est aussi étrange. Il y a tellement de gens à qui j'aimerais poser des questions, mais je ne peux pas le faire ici. Mais peut-être qu'individuellement, je poserai des questions à certains d'entre vous. En tout cas, merci et merci aussi d'être là. Au revoir.